Bonjour, vous êtes avec la Fondation La Cause. Au micro, Alain Devels, directeur général de la Fondation La Cause, et Nicole Devels, pasteur, conseillère conjugale et familiale et directrice du département solo duo de la Fondation La Cause.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous voulons parler de liberté. Et la liberté, c'est ce qu'il y a sur les frontons de tous nos bâtiments municipaux, qui rappellent que la fierté des Français, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Une anecdote peut-être pour commencer qui nous parle de la liberté, c'est la caissière au supermarché qui me disait la semaine dernière « Nous sommes privés de notre liberté fondamentale dans ces temps de Covid où nous n'avons plus la liberté de faire ce que nous voulons en raison des confinements. »
C'est vrai que pas une de nos rencontres n'échappe à un moment ou à un autre à cette discussion autour de cette privation de liberté que nous avons. Et chacun de nous réagit de façon très différente aux contraintes qui nous sont proposées depuis presque un an maintenant.
Alors, cela s'exprime à la fois dans la vie des solos et des couples, et c'est le sujet que nous allons aborder particulièrement aujourd'hui.
La liberté, ça pourrait sembler vouloir dire avoir le choix, avoir le droit de faire exactement tout ce qu'on veut. Donc avoir le pouvoir de faire exactement tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est une des définitions du dictionnaire. Mais il se trouve qu'en regardant de plus près à travers les sciences humaines et à travers aussi une parole biblique, nous allons voir qu'on peut inverser les verbes pouvoir et vouloir en disant finalement que la liberté, c'est peut-être à l'inverse ou bien paradoxalement en même temps, vouloir faire tout ce qu'on peut. Et pour ça, je voudrais citer déjà une anecdote. On a entendu dire autour de nous que lors du premier confinement, les personnes étaient très souvent allées faire leur heure de marche autour de leur domicile régulièrement, tous les jours, alors que dans les temps habituels, ça ne leur arrivait pas. En fait, on leur avait donné cette petite plage horaire possible et ils avaient bien voulu s'en servir. Donc, ils avaient bien voulu faire ce qui était leur possible. Et donc, il y a une façon de voir la liberté en négatif, en se sentant toujours contraint, en étant toujours dans une position de ralente, de se sentir limité, ou bien au contraire, dans une position positive, de dire après tout, il y a du possible, est-ce que déjà je me saisis de ce possible et je veux le faire ?
Je crois que cette année, avec la pandémie, nous avons appris à vivre avant le mot liberté, le mot solidarité. Et exprimer sa liberté en restant toujours attentif aux autres afin de ne leur pas porter préjudice, porter un masque pour éviter de contaminer les autres, etc. Et je pense à cette citation sur la liberté de Nelson Mandela, homme d'État et prix Nobel de la paix, qui a été président donc en Afrique du Sud, et qui dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres ».
C'est vrai qu'on peut avoir une conception de la liberté très individualiste, c'est-à-dire prendre tout l'espace possible pour moi et quelque part essayer de n'avoir aucune limite à ma propre toute-puissance. Mais il y a une autre vision qui est celle de rendre aux autres autant de liberté que celle que je m'octroie et donc accepter de vivre dans cette cohabitation et cette conjugaison et mieux qu'une cohabitation, une collaboration de l'un avec l'autre.
L'apôtre Paul parle aussi dans sa lettre aux Galates de cette approche de la liberté attentive aux autres. Il nous dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute la loi se résume dans ce seul commandement : tu dois aimer ton prochain comme toi-même. »
Comment pouvoir entendre une telle parole en ce temps de Covid? Comment faire de notre aspiration à une liberté individuelle, à l'inverse ou en retournement, la possibilité de vivre un service mutuel et une liberté offerte à l'autre? Je crois que tel est vraiment l'enjeu et notre responsabilité en tant que chrétien.
Nous sommes sur Fréquence Protestante avec la Fondation La Cause et nous parlons de la liberté pour les solos et la liberté dans le couple. Un thème magnifique, celui de la liberté. Et quand on parle des célibataires, on les associe souvent justement à cette notion de liberté. La liberté est souvent présentée comme un des avantages principaux de l'état de célibataire.
Oui, liberté de mener sa vie comme on l'entend, aussi bien dans les horaires que dans les grandes décisions, que dans les activités de loisirs choisies ou bien les modes professionnels. Et néanmoins, derrière cette liberté, il y a énormément de solitude. Solitude qui, aujourd'hui, avec les temps de confinement, se trouve renforcée jusqu'à devenir une grande souffrance.
Est-ce que pour les solos, la liberté n'est pas quelque chose d'encombrant ? Par exemple, la liberté de manger quand on veut et finalement de ne plus avoir d'horaire. La liberté de faire ce qu'on veut comme on veut et finalement de ne plus sentir vraiment la saveur du pourquoi je le fais, comment je le fais et avec qui je le partage.
D'où la nécessité d'avoir un cadre, une discipline personnelle, des références et peut-être aussi des engagements, certains rituels, certains plannings pour justement se donner à soi-même des jalons.
La liberté est vécue difficilement dans cette période d'épidémie, particulièrement aussi pour les solos, même si elle est généralement vécue difficilement, puisque la notion d'horaire, de travail, est tout à fait relative aujourd'hui avec le télétravail, avec le « on reste chez soi » et la difficulté de distinguer un temps de repos, un temps de loisir, un temps de travail.
La liberté pour les solos, c'est aussi un piège dans la mesure où il n'y a personne à qui rendre compte. Dans un vis-à-vis, dans le partenariat du couple, l'autre attend certaines choses de soi et donc je suis en train de lui rendre compte de mon cheminement de pensée, de mes projets ou de mes actions passées. Et dans la liberté totale du solo de ne pas avoir à rendre compte, il y a aussi un déficit de parole, un déficit de dialogue, un déficit de se sentir attendu par quelqu'un et de se faire valoriser par quelqu'un.
Dans la causerie des solos, qui vient de se terminer, il y avait un partage qui m'a particulièrement marqué. Une dame célibataire, mais qui était anciennement mariée, et qui était veuve, et qui disait « À partir du moment où j'ai été veuve, certes, j'ai perdu mon conjoint, mais j'ai découvert la liberté de pouvoir faire mes choix quand je le voulais, comme je le voulais, ce qui était toujours compliqué lorsqu'on était à deux. » Et en même temps, à la fin, elle relativisait en disant « Mais finalement aussi, cette contrainte de la vie de couple a apporté quelque chose de différent. Et chacune des situations apporte quelque chose qui est à vivre.
Ainsi, qu'on soit solo ou duo, la question de la liberté est une question paradoxale qui met en lumière plusieurs de nos besoins. Besoin d'appartenance, besoin d'indépendance, besoin d'affection, mais besoin aussi de ne pas être dévoré par l'affection de l'autre. Besoin de collaboration, mais aussi besoin d'une valorisation personnelle. Tous nos différents aspects de nos personnalités psychologiques sont là un petit peu secoués et mis en lumière par cette notion de la liberté.
Et si on met en parallèle le couple et la vie de solo, le couple, on peut se dire « je suis attaché à mon conjoint ». Et attaché peut avoir un sens tout à fait péjoratif. Je suis enchaîné par la présence de mon conjoint et je perds ma liberté.
Ce qui est important, si on utilise le mot « s'attacher », c'est de justement qu'il soit perçu dans sa notion transitive. C'est-à-dire, moi, j'accepte de m'attacher à l'autre, c'est-à-dire que je lui accorde de l'affection. Et non pas « j'attache l'autre », c'est-à-dire je le considère comme une de mes possessions. Et on voit malheureusement dans tous les couples dysfonctionnels qui vont jusqu'à la violence, qu'une mauvaise compréhension de l'affection réduit l'autre à l'état d'objet qui m'appartient et dont je ne supporte pas la liberté et dont je ne supporte pas non plus la liberté de rompre, puisque malheureusement beaucoup de drames viennent de couples qui sont déjà en rupture et où un des membres du couple ne supporte pas que l'autre s'en aille.
Donc la dimension d'un couple qui serait dynamique, tonique et en bonne santé, ce serait de dire « je t'aime », c'est-à-dire « je veux ta liberté, ton épanouissement et je suis bienveillant vis-à-vis de toi et je ne veux pas non plus t'étouffer ». Que ce soit une affection de bras qui enserre l'autre et qui l'enferme finalement et qui l'étouffe.
Là aussi, il est question d'équilibre et de paradoxe. Un couple trop fusionnel peut souffrir d'un amour qui serait étouffant. À l'inverse, beaucoup de couples aujourd'hui, pour avoir voulu laisser la liberté à chacun, se trouvent à grande distance. Chacun mène ses actions dans son coin, chacun est devant son ordinateur, il n'y a même plus de télévision commune. Chacun va au travail, chacun a une relation avec les enfants. Et de ce fait, il reste très peu de choses partagées. Il y a donc, au lieu de chercher à vivre un extrême, toujours un équilibre à trouver et à retrouver, c'est-à-dire à réajuster, pour arriver dans le couple à avoir à la fois des choses en commun et à la fois des espaces individuels.
Mais alors là, il y a un problème. Quand on est confiné à la maison, dans un espace assez réduit, comment avoir un espace pour soi sans être tout le temps, entre guillemets, l'un sur l'autre ?
Cette situation compliquée a mis en lumière pour les couples la nécessité de regarder en face leur relation. Ceux qui avaient une bonne relation, travaillaient avec suffisamment justement de souplesse et de liberté intérieure, ont réussi à s'adapter si les circonstances n'étaient pas trop compliquées avec le travail et les enfants présents à la maison, surtout lorsqu'ils sont petits. Pour d'autres couples qui étaient déjà en difficulté, c'est plus difficile parce que quand le dialogue est tendu, il y a une certaine exaspération qui peut vite monter. D'où la nécessité de trouver des aides, de trouver des outils pour apprendre à se parler avec plus de respect, avec plus de calme, avec plus de sensibilité aussi à la façon dont l'autre peut recevoir le message. Découvrir par exemple la communication non violente ou d'autres techniques qui font qu'on va pouvoir à la fois se dire soi-même, parce qu'il ne s'agit pas de se nier, et laisser toute sa place à l'autre.
On reprend la citation de Mandela qui montre que dans l'espace de ma liberté, je suis appelé à ouvrir un espace pour la liberté de l'autre et surtout pas à le contraindre ou à lui restreindre sa liberté par ma présence. Fréquence protestante avec la Fondation La Cause pour parler de la liberté et particulièrement des solos et des couples. Il y a à la Fondation La Cause des propositions très concrètes pour aider les solos à mieux vivre leur célibat et pour aider les couples à approfondir et à enrichir leurs relations.
La Cause est une des rares œuvres chrétiennes à développer particulièrement tout un domaine de ses activités pour les personnes qui vivent seules, qu'elles soient célibataires, veuves, séparées ou divorcées. Des propositions individuelles d'accompagnement, d'écoute, de suivi, des propositions collectives à travers des groupes locaux, régionaux, qu'on appelle « solfa-sol », ce qui veut dire « solidaire face à la solitude », et qui proposent habituellement, chaque mois, dans les régions, des sorties avec des activités de différents types, style randonnée, etc., et un temps de prière et un repas. Il y a aussi des activités nationales telles que des week-ends et des vacances.
Ces rencontres, mais très provisoirement, sont suspendues. Nous sommes dans l'attente des reprises. Quand elles sont actives, elles sont organisées en lien avec toutes les églises protestantes de France, parfois de Belgique et de Suisse.
Pour pallier au manque de réunions en réel, la Fondation La Cause a mis en place cette année 2020 et 2021 le cycle de la causerie, c'est-à-dire des petits groupes de 4 personnes solo qui, au fil des semaines, se retrouvent de façon hebdomadaire pour parler de thèmes qui sont préparés d'avance et qui conduisent leurs discussions sur des sujets finalement très profonds et aussi très fructueux. Bon nombre de personnes ont dit avoir énormément reçu de ces partages qui ont eu lieu le premier cycle au printemps et le deuxième à l'automne-l'hiver. Il est probable que dans l'année 2021, nous poursuivrons un nouveau cycle de la causerie.
Des séjours sont déjà prévus, notamment au mois de juin. Il y aura une grande rencontre internationale francophone à Paris pour les solos dans le cadre de la fête des 100 ans de la cause. On pourrait plutôt dire des 101 ans puisque la cause a été créée le 20 mars 1920. Donc ça fera 101 ans. Et nous avons retardé cette grande rencontre, ce grand week-end qui réunira beaucoup de solos et beaucoup d'amis de la cause de toute la France.
Pour les couples, dont nous parlions tout à l'heure avec l'exercice difficile de la liberté, de la conjugalité et de l'amour aujourd'hui dans ces temps un petit peu compliqués, nous avons aussi des propositions à faire en termes de session. Session, ça veut dire un moment mis à part dans la vie du couple pour travailler à la relation. Parce que une de nos convictions est qu'un couple, ça se travaille. On ne peut pas être fataliste devant la réalité conjugale, à croire que tout va bien parce que ce serait magique ou qu'au contraire, tout va mal et qu'il faut absolument et très rapidement se séparer. Nous sommes au contraire face à des couples qui sont vivants, donc avec des hauts et des bas, avec des relations plus ou moins faciles. Mais pour chaque relation, il y a quelque chose à faire. Il y a une porte à ouvrir, il y a un dialogue à tenter, il y a des souvenirs à remémorer pour savoir pourquoi le couple a fait ce choix de vivre ensemble et de s'engager ensemble. Et il y a parfois aussi des solutions à certaines difficultés, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'ordre du langage, qu'elles soient d'ordre sexuel, qu'elles soient aussi d'ordre matériel. Et pour regarder en face toutes ces difficultés, nous avons mis au point un parcours à vivre par le couple sous forme d'ateliers et de conférences et de témoignages et d'exercices. Et ces parcours se vivent lors des sessions pour les couples.
Alors, les sessions avec la cause sont organisées depuis 18 ans de manière œcuménique avec un organisme catholique à vocation œcuménique qui s'appelle Fondatio, qui est situé, basé à Versailles, et donc avec la Fondation La Cause.
Ce partenariat nous oblige à être toujours en mouvement dans le dialogue, à l'écoute les uns des autres. Et nous sommes ainsi une sorte de parabole de ce qui se vit dans un couple avec l'homme et la femme qui doivent en permanence allier leurs différences pour les comprendre comme des richesses et non pas comme des obstacles. Et c'est ainsi que, catholiques et protestants, nous sommes toujours en train d'aller de l'avant en nous laissant interpeller par nos différences comme une richesse plutôt que comme un obstacle. En ces temps où il y a un certain communautarisme, où beaucoup de groupes sont dans le repli sur soi, nous voulons affirmer au contraire que travailler ensemble en étant différents est vraiment une parabole de l'unité qu'on peut développer en tant qu'être humain et de l'unité aussi qu'on peut retrouver dans une famille.
Et ces sessions d'ailleurs voient venir à la fois des couples catholiques, des couples protestants, mais des couples mixtes avec un catholique et un protestant, ou bien également avec des personnes qui sont en recherche et qui sont carrément en dehors de toute spiritualité, mais qui ne sont pas hostiles et qui souhaitent vivre quelque chose avec l'apport aussi de chrétiens.
Et dans les bilans de ces sessions, une des choses qui marque le plus les participants, c'est le respect et la bienveillance. Respect pour ceux qui arrivent à la session sans avoir d'identité religieuse et ceux pour qui, pour les couples qui sont en difficulté, une immense bienveillance pour les accueillir tels qu'ils sont, sans aucun jugement, mais en voulant cheminer avec eux et en partant de là où ils en sont.
Ainsi, il y a des jeunes couples qui sont en train de se constituer, qui s'inscrivent, comme des couples qui ont déjà un grand nombre d'années de mariage et qui viennent pour fêter cet anniversaire de mariage en recherchant comment approfondir leur relation. Et c'est cette richesse, cette multiplicité des parcours et de la présence des uns des autres qui fait aussi la qualité de ces sessions.
Il y a donc des personnes qui viennent, je dirais, de 30 à 80 ans et qui chacune vont se sentir à l'aise, bienvenue, accueillie et valorisée.
La spiritualité est importante dans ces sessions, mais le travail se fait principalement avec l'apport des sciences humaines et de l'approche de la psychologie.
Les témoignages des couples sont là pour donner une idée de ce qui se vit dans le réel, avec beaucoup d'authenticité. Et des professionnels sont aussi là, des conseillers conjugaux et familiaux, des thérapeutes de couple, des psychologues, pour pouvoir accompagner les couples à leur demande, en toute confidentialité et dans la gratuité de ce temps de partage sur une petite semaine.
À ces professionnels s'ajoutent également donc prêtres et pasteurs qui sont présents et qui accompagnent les sessions.
C'est ainsi une multitude de personnes qui se mettent au service de la conjugalité pour aider les couples de tous âges à trouver un renouvellement, un nouvel élan et l'envie de partir avec des projets, avec un dynamisme et un encouragement. Je pense qu'en ces temps où chacun a tendance à voir son moral un peu s'effriter, il est très important de nous offrir ou d'offrir aux autres ce type de vitamines et d'énergie pour pouvoir aller vers une conjugalité heureuse.
Chaque session a un peu sa particularité. La prochaine, qui aura lieu du 13 au 16 mai 2021 à Viviez, s'appelle « Accueillir nos différences et avancer ensemble ». C'est une parenthèse hors du temps pour reprendre souffle, retrouver le goût d'un dialogue profond et léger à la fois. C'est une session qui est moins marquée spirituellement pour accueillir le grand public avec beaucoup de respect.
Aura lieu aussi au mois de juillet. Du 26 au 31 juillet, sur une petite semaine, à Dourdan, au sud de la région parisienne, dans une magnifique forêt, dans une ancienne abbaye qui s'appelle l'abbaye de Loye. Cette session qui est ouverte à tous et qui s'appelle « S'aimer et construire son couple ». Ce sera l'occasion de visiter les différents domaines de la conjugalité, la communication, les projets, la parole, la sexualité, l'aspect matériel de la gestion du foyer, la parentalité, etc. Et à travers des moments tous ensemble et d'autres moments d'ateliers interactifs, que chaque couple puisse cheminer pour se ressaisir de son énergie et avancer ensemble.
On peut décider en couple de s'inscrire à une session, avec souvent l'un des deux membres du couple qui sera moteur. On peut aussi, si on connaît un couple qui en aurait besoin, pour qui ce serait vraiment important, le lui offrir.
Proposer à d'autres de rejoindre une session, c'est leur faire un cadeau inestimable. Ils ont toujours la liberté d'y aller ou pas, mais souvent les gens ne sont pas tellement informés de cette possibilité. Et quand on voit les fruits qui sont produits avec une simple semaine de travail de couple, on a envie vraiment de partager cette expérience avec tous. Que les couples se sentent en bonne forme ou très en difficulté, chacun trouvera vraiment quelque chose à améliorer et du bonheur à pouvoir vraiment prendre soin de son couple. En fait, on vise la chose comme si le couple en lui-même était une personnalité vivante et il s'agit de prendre soin de son couple.
Nous écoutons en même temps dans cette émission le CD des éditions de La Cause qui s'appelle « Musique et chants juifs et chrétiens » sous la direction de Jean-Christophe Robert. Nous parlons des solos et des couples, avec notamment un ouvrage qui permet de préparer le mariage. Et c'est vrai qu'il y a énormément de couples qui attendent de pouvoir se marier et qui ne l'ont pas fait en 2020, ni jusqu'à présent 2021.
L'ouvrage s'appelle justement « Libre d'aimer ». Comme quoi la question de la liberté et de l'amour conjugué est une question qui est loin d'être simple et qui mérite d'être réfléchie. Et justement, il ne s'agit pas tout à fait d'un livre, mais d'un cahier-livre pour que chaque couple puisse réfléchir par lui-même et être très interactif dans cette préparation au mariage. Sur chaque page, beaucoup d'exercices, de questionnaires, de quiz pour être autant d'occasions de dialogue et cheminer ensemble à la découverte l'un de l'autre et aussi construire vraiment le projet du couple.
Les éditions de La Cause vendent cet ouvrage par deux, justement pour que chacun dans le couple ait ce petit fascicule et puisse y réfléchir individuellement pour en reparler ensemble à la fin de chaque partie du livre. C'est très interactif, très ludique et en même temps, c'est vraiment très fructueux pour la vie des couples.
Avec de belles illustrations joyeuses et des problématiques qui sont abordées à la fois avec un angle biblique, un angle psychologique, quelques citations d'auteurs connus sur la question et aussi par étoile des défis.
Et à la fin de l'ouvrage, un chapitre spécial pour la préparation de la cérémonie du mariage.
Avec des textes bibliques, des textes non bibliques, un choix de chant, le déroulé, l'écriture des engagements à prendre, etc. Ce livre est fait pour aider les couples qui préparent leur mariage, mais il peut aussi plus largement aider d'autres couples, ceux qui réfléchissent à un éventuel engagement sans être encore sûrs de leur partenaire, ou même des solos qui cherchent à construire un couple et qui se demandent comment ils franchiront les différentes étapes lorsqu'ils rencontreront l'élu. Pour un couple qui est déjà marié, nous avons un autre ouvrage à proposer qui lui aussi est sous une forme un peu interactive et ludique, le calendrier duo.
C'est un calendrier permanent, c'est-à-dire qui peut servir d'une année à l'autre et qui propose chaque mois un texte biblique, une réflexion, une prière et un défi pour le couple.
Il s'agit de trouver des moments pour un rendez-vous à deux. Comme on aurait un rendez-vous médical, sportif ou professionnel, de fixer avec son conjoint des temps mis à part qui seront vraiment consacrés à la relation.
Notre émission arrive à présent à sa fin. Vous pouvez retrouver les quatre départements de la Fondation La Cause, c'est-à-dire département solo-duo, mais aussi le département handicap visuel avec une bibliothèque sonore et braille envoyée dans tous les pays francophones en franchise postale, le département enfance qui représente 20 orphelinats dans 4 pays, 1800 enfants qui peuvent être parrainés et aussi le service d'adoption, le département édition dont nous avons écouté un des CD, un des enregistrements, Musique Échange Juifs et Chrétiens, sous la direction de Jean-Christophe Robert. Donc ces quatre départements peuvent être retrouvés sur le site de la Fondation La Cause, www.lacause.org. Il est possible aussi de nous écrire par mail à fondationsingulier@lacause.org. Vous pouvez aussi nous téléphoner
au 01 39 70 60 52, je répète, 01 39 70 60 52.
À très bientôt.
Au revoir.